gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Radio Exterior de España.
L'émission en français.
Confluence hispanique, frontière.
Marie Valin.
Frédéric Spielmacher.
Antoine Sénéchal.
Pierre Salmon.
Anélie Prudor.
Frontière, limite, barrière, lieu de passage.
Confluence hispanique.
Une collaboration, Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne.
Un programme proposé par Emmanuel Zor. Amis auditeurs, bonjour. Nous vous proposons aujourd'hui de commencer un nouveau cycle Confluence hispanique. Comme le précédent, fruit de la collaboration entre la Casa de Velázquez de Madrid et Radio Exterior d'Espagne. Signe des temps peut-être, mais la question des frontières est de plus en plus revisitée. Nous avons volontairement cédé à cet élan que nous percevons puissant. Mais, car il y a un mais, nous avons voulu, souhaité, espérer pouvoir élargir la notion de frontière. Et les membres scientifiques de la Casa de Velázquez ont largement répondu à cette volonté, ce souhait, cette espérance. Aujourd'hui, et pour commencer, nous accueillons Marie Valin, qui part des frontières de l'intime pour arriver aux frontières sociétales, voire fondatrices de la nation, et de la manière dont celle-ci se voit, se pense et souhaite être. Marie Valin, avec vous, nous allons parler de frontières aussi, mais c'est assez particulier.
Tout à fait.
Alors, nous parlons de frontières, mais ma première question va être, qu'est-ce que c'est qu'un vrai homme?
Ça, c'est une grande question.
Vaste question.
Vaste question, oui. On va un peu en parler aujourd'hui, puisque moi je fais ma thèse sur les savoirs savants sur l'impuissance sexuelle en Espagne au XIXe siècle. Et donc, une des questions que je pose dans ma thèse, c'est plutôt qu'est-ce qu'un homme n'est pas, peut-être, hein. J'étudie plutôt des hommes qui sont considérés comme défaillants, du point de vue de leur sexualité, aussi de leur identité virile. Mais c'est vrai que par transparence, du coup, ça permet aussi de voir qu'est-ce qu'on attend d'un vrai homme.
Oui, alors, 19e siècle, mais vous avez choisi aussi un corpus beaucoup plus étendu que le 19e siècle. Mais je crois que le 19e siècle, puisque nous parlions de frontières, est aussi une frontière à bien des aspects. Mmh. Est-ce oui. que c'est une idée que vous partagez avec moi?
Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est un siècle où change beaucoup de choses concernant les savoirs sur la sexualité, puis les savoirs sur le corps, la médecine. On découvre beaucoup de choses au 19e siècle et on passe d'une médecine, d'une médecine considérée traditionnellement dans la tradition hippocratique et de Galien, donc la médecine des humeurs, à une médecine plus scientifique qui, à partir de la médecine clinique, puis ensuite de la médecine expérimentale, va devenir un peu plus scientifique. Les conceptions du corps changent complètement au 19e siècle. On ne considère plus du tout...
Les conceptions du corps, les conceptions aussi médicales, changent beaucoup au 19e siècle. Tout au long du 19e siècle. Mais en Espagne, le changement est un peu plus long. Pas parce qu'il n'y a pas de médecins déjà et de facultés de médecine, mais parce que le poids de la religion, de l'Église plutôt, reste fort. Et là, vous insistez là-dessus. Votre corpus est composé non pas de rapports médicaux, mais de documents du tribunal religieux qui concède ou non le divorce.
Mmh, oui, oui. Oui, mon corpus est constitué en premier lieu de demandes de nullité de mariage pour impuissance sexuelle faites devant des tribunaux diocésains castillans. Donc j'étudie notamment Madrid et Saragosse, un petit peu des cas à Tolède aussi. Très peu parce que ça a été mal conservé. Mais du coup, c'est vrai que ça me permet de voir pourquoi est-ce que la religion s'intéresse à ces questions de sexualité. En fait, dans l'histoire, traditionnellement, c'est plutôt l'Église qui gérait la sexualité par le biais du mariage, du mariage, quoi, et de l'interdiction du divorce aussi. Et c'est en fait au 19e siècle, avec beaucoup de nuances quand même, mais que la médecine devient peut-être plus importante que la religion. Et c'est vrai que au 19e siècle, l'Espagne a pas du tout le même parcours que la France, par exemple, qui devient laïque, elle entame un chemin vers la laïcité avec la Révolution française. Et en Espagne, justement, ce modèle de la France républicaine est vu un peu comme pour beaucoup de personnes, comme un exemple à ne pas suivre. Voilà, donc ça, j'interroge ça dans mes sources. Après, tout le monde n'est pas... forcément favorable au catholicisme, mais la grande majorité des libéraux, quand même, au 19e siècle en Espagne, sont catholiques aussi.
Votre travail sur ce corpus, les archives des tribunaux diocésains en charge des procès d'annulation de mariage, des séparations, vous ont amené à distinguer trois types de frontières. La frontière homme-femme, et celle qui marque la distinction également entre homme véritable, viril et homme défaillant, la frontière entre licite et illicite, et la frontière entre le sexuel et le social ou culturel.
Oui, effectivement, du coup, alors moi j'aime bien travailler sur les frontières dans mon sujet, mais surtout pour les déconstruire et les rendre plus floues. Mais donc effectivement, je travaille sur les frontières de genre, donc sur la question de savoir qu'est-ce qu'un vrai homme, comment est-ce qu'on définit la masculinité et la féminité, mais aussi comment est-ce qu'on définit certaines masculinités comme plus ayant plus de valeur que d'autres. Donc c'est aussi les frontières entre les hommes eux-mêmes que j'étudie, donc au niveau des identités de genre. Ensuite, j'étudie aussi la frontière entre une sexualité considérée comme normale et une sexualité considérée comme anormale. Parfois, on peut employer les termes de perverse ou alors, à la fin du 19e siècle, pathologique aussi, avec la naissance d'une médecine spécialisée sur la sexualité. Donc ma question, c'est de voir comment est-ce que ces normes-là sont construites socialement. Voilà, notamment par la religion et la médecine, et aussi par les acteurs eux-mêmes, en fait. Qu'est-ce qu'ils acceptent de ces normes-là? Qu'est-ce qu'ils reprennent? Quels sont les interdits qui sont respectés, ceux qui sont moins importants, etc., au niveau des pratiques sexuelles, quoi. Et ensuite, j'interroge aussi la frontière entre le biologique et le culturel. qui est, enfin ça c'est une question qui est fondamentale dans les études de genre. Moi, ce que j'aime bien dans cette question, c'est que traditionnellement, on a considéré que les études de genre, c'était, on étudie la partie sociale de l'identité qui était assignée à des corps sexués. Donc, on va étudier, je sais pas, les représentations, voilà, de la masculinité, comment un homme doit se comporter, quelles sont les attitudes, etc. Et de l'autre côté, il y aurait quelque chose qui serait, par contre, de l'ordre du biologique, du scientifique, quelque chose un peu plus d'essentiel, en fait, qui serait le sexe en tant qu'organe. Et moi, ce que j'aime bien faire dans mes études, et je m'appuie sur des chercheuses qui ont fait ça aussi, c'est voir comment est-ce que les savoirs sur la biologie sont aussi influencés dans une certaine mesure par les croyances sur le genre, les représentations.
Et vice-versa.
Et vice-versa, tout à fait.
Bah oui, parce que les apports ou les études, si j'ose dire, sur la biologie, on peut remonter à Aristote, qui parle beaucoup d'ailleurs de reproduction et de corps, etc. Et en fait, c'est pour mieux asseoir cette idée de passivité de l'un ou de l'une et action, décision de l'autre.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Et ça, on voit dans votre travail que ça se poursuit jusqu'au 19e, mais on peut même dire que ça se poursuit encore dans pas mal de situations.
Oui, 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 tout à fait. Ben, Aristote est beaucoup repris, même au 19e siècle, parce que c'est lui qui va écrire, qui va donner au sperme la valeur, en fait, d'un fluide particulièrement vital, en fait. Voilà, donc ça, c'est une idée d'Aristote qui est ensuite reprise dans la médecine des humeurs et qui reste très présente dans les représentations du 19e siècle. C'est pour ça que, par exemple, la masturbation est considérée comme une cause d'impuissance, voire même dans le premier 19e siècle, comme pouvant provoquer la mort. Parce qu'en fait, un corps masculin qui perd trop de sperme, c'est un corps qui s'épuise, qui devient affaibli parce qu'il perd toute son énergie vitale, justement par cette valeur du sperme qui est censée être même plus vitale, en fait, que le sang dans les représentations du corps. Et donc, Aristote a en fait toujours de l'influence au 19e siècle. Ça, c'est aussi intéressant de voir quelle est la pérennité de ces croyances et théories médicales.
Une information qui m'a beaucoup, beaucoup attiré l'attention. Lorsque l'Espagne perd son empire, fin du 19e, et là, il y a tout un débat sur le risque d'efféminisation du peuple qui se retrouverait dégénéré, etc. Alors, on sait que c'est une époque où l'Espagne, au moins intellectuelle, se repense, essaye de trouver les raisons de son sous-développement, de ses problèmes au niveau des colonies. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela soulève un débat sur cette question précise.
Oui, alors c'est vrai que ça étonne souvent parce que les écrits de la génération de 98 sont souvent connus. Enfin, c'est donc des poètes comme Unamuno, Miguel de Unamuno par exemple, Joaquín Costa, qui sont aussi des hommes politiques et qui vont écrire sur la décadence de l'Espagne et qui vont chercher aussi les causes de cette décadence. Pourquoi est-ce qu'en 1898 on fait un état des lieux? C'est que en 1898 l'Espagne perd Cuba et les Philippines, ses dernières colonies, alors que les autres pays européens, eux, en gagnent. Hein, donc on est dans une phase, une première phase de conquête pour la France qui est bien terminée à ce moment-là. Enfin, donc, on voit que le jeu des puissances s'est recomposé à l'échelle internationale. Et donc, pourquoi est-ce que l'Espagne est en retard? Et Et donc, parmi les causes de cette décadence, il y aurait des causes un peu essentielles au peuple espagnol. Donc, on va chercher dans les racines du peuple espagnol, ça c'est aussi très la pensée romantique du 19e siècle, hein, réfléchir sur le peuple et réfléchir aussi sur la race espagnole. On parle aussi de race à la fin du 19e siècle dans les savoirs scientifiques. Pourquoi est-ce que cette race serait inférieure aux autres? Et parmi les raisons, donc on va voir, enfin, en tout cas moi je lis et d'autres historiens lisent ça en termes de genre. Donc moi je trouve beaucoup de références sur la mollesse du peuple espagnol. Et des descriptions qui ont rapport à l'impuissance sexuelle, au manque de virilité, au manque à la passivité, et parfois ça va être axé sur des hommes en particulier, donc ça va être les caciques par exemple, mm-hmm. qui représentent une masculinité particulière, qui est une masculinité non moderne, qui met en retard l'Espagne. Après il y a d'autres hommes qui sont généralement c'est les gouvernants quoi, qui sont accusés de manquer de virilité en fait, et je trouve ça très intéressant que ces métaphores aient pas été plus étudiées que ça en fait dans le discours de la génération de 98. Alors il y a des historiens qui en ont un peu parlé, Richard Clemenson et Francisco Vázquez García, qui ont fait une étude de l'homosexualité, la naissance du terme homosexualité aussi au 19e en Espagne, ont un chapitre sur régénérationnisme et le lien avec l'homosexualité qui est fait, et Darina Martikanova qui travaille aussi à la UAM, à l'Universidad Autónoma, a fait aussi un article là-dessus. Mais c'est encore quelque chose qui est, je sais pas, peut-être parce que ce discours est tellement important aussi sur l'identité espagnole, l'identité nationale. Ce discours de la génération de 98 a été tellement discuté que peut-être ça paraît pas si important que ça de le percevoir de ce point de vue-là, du genre, comme si, voilà. Moi, je pense que c'est intéressant aussi de voir comment les métaphores apparaissent aussi dans des discours politiquement aussi importants, pour aussi raccrocher l'histoire de la sexualité à l'histoire politique en général, en fait, voir à quel point c'est pas un pan si marginal aussi de l'histoire et que ça fait partie aussi de ce qui nous construit.
Alors que dans le parler quotidien, etc., au contraire, c'est la virilité est un terme qu'on souligne, qu'on met de l'avant pour les soldats, pour les matadors, tout ça. Et on a l'impression, au contraire, qu'il y a une sur-sexualisation du discours. Et s'apercevoir que des penseurs de 1898 remettez cela en cause, ça perturbe, disons, les catégories. C'est bien, d'ailleurs. Ça perturbe les catégories que nous avons.
Mmh. Oui, c'est sûr, oui. Après, il y a aussi la différence entre la vision de l'Espagne telle qu'elle est perçue à l'étranger et telle qu'elle se perçoit elle-même. C'est sûr que toutes ces traditions que vous évoquez, elles sont aussi construites par l'extérieur. Une vision très romantique de l'Espagne qui est construite par des écrivains, je sais pas, je pense à Prosper Mérimée en France, voilà. Et après, c'est comment est-ce que l'Espagne se perçoit elle-même par rapport à ça.
Qu'est-ce que c'est qu'une femme adultère? Qu'est-ce que c'est qu'un homme adultère? Qu'est-ce qu'on appelle adultère? Et les peines encourues s'il y a peine.
Mmh. Oui, alors au 19e siècle, c'est défini de manière très différenciée selon les femmes et les hommes. Et le code pénal de 1848 définit l'adultère. Alors pour une femme, c'est une femme qui a une histoire avec un autre homme qui n'est pas son mari. Et pour un homme, il faut que il y ait alors soit que ça a été que l'acte ait eu lieu au domicile conjugal ou qu'il y ait scandale public. Et donc Là, on voit vraiment la différence très forte, en fait, parce que du coup, si le mari arrive à le faire dans le secret, a priori, il n'est pas inquiété. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a aussi le fait que le mari peut choisir la durée de la peine de la femme adultère.
Ah, c'est pas pratique.
C'est pratique, oui. Et pas dans l'autre sens. Donc voilà, l'adultère féminin est beaucoup plus durement considéré que...
Et connaît-il de l'autre femme ?
Alors, l'amante, elle risque encourt une peine d'exil. Donc, c'est aussi très fort pour la femme qui est prise en étant amante d'un homme, quoi. Ça, c'est lié à la vision, de la sexualité masculine à cette époque, où ce que je vois, ce que j'observe aussi dans mes procès, c'est que pour montrer qu'un homme est véritablement un homme, il doit avoir une sexualité conquérante. Et donc, dans ce cadre-là, souvent, il vaut mieux avoir eu des aventures qu'être impuissant, en fait. Pour un homme à l'époque, au 19e siècle, vous êtes mieux considéré si vous êtes adultère et que vous le faites un peu dans le secret comme ça, ou que si vous êtes impuissant. Et du coup, je vois dans les justifications, dans les argumentaires des gens qui se présentent aux tribunaux, des hommes qui disent « Ah non, tout va très bien, la preuve c'est que avant de connaître ma femme... » Alors ils le disent pas comme ça, je suis allée voir des prostituées, mais on comprend avec le récit que voilà...
Mais c'était une tradition.
C'était une tradition.
Il n'y a pas besoin de remonter au 19e siècle. Années 60, 70, 80, il y avait encore des papas qui emmenaient leur fils adolescent.
Tout à fait, oui.
Faire des visites dans des bordels.
Oui, bah c'est un rite de passage, en fait. C'est un rite de passage à l'âge adulte pour les jeunes hommes. Soit par les prostituées, soit aussi, ça se voyait beaucoup avec les domestiques. J'ai le cas d'un procès avec une domestique qui... c'est elle qui demande la nullité de son mariage, mais on comprend pas trop pourquoi, parce que on comprend dans le procès qu'en fait elle était avec le père, et puis que le père l'a dirigée vers le fils pour former son fils, en fait, que une fois que le père meurt, en fait, elle a un enfant avec le fils, et une fois qu'elle se retrouve devant les tribunaux, alors là ça se passe pas très bien pour elle, parce que on comprend pas de qui est l'enfant, est-ce qu'il est du père, est-ce qu'il est du fils, et à la fois quand on lit le témoignage, on ne sait pas trop si elle a eu le choix ou pas, et lui se présente plutôt comme quelqu'un qui a été abusé aussi par une femme qui était plus âgée que lui, abusé aussi, parce que voilà, c'est ce que son père lui avait dit de faire, et donc il n'est pas forcément responsable.
Alors vous voyez comment nous glissons du biologique vers le culturel. Et moi, je dirais peut-être que nous glissons aussi du culturel vers ce qui est économique. Parce qu'une femme adultère avec un enfant qui n'est pas le fils de son mari, c'est déjà une bouche à nourrir qui n'est pas de la famille. Et donc, le père, la famille paternelle, craint cela et ne veut pas prendre en charge cela.
Oui, c'est sûr. Ouais. Bah, les questions économiques sont très importantes dans les demandes de nullité, les demandes de séparation en général. C'est un enjeu fondamental, parce que du coup, avec une nullité, on peut se remarier après, si on n'est pas considéré comme impuissant. Donc, c'est en ce sens que dans les procès que j'étudie, les femmes sont plutôt en position de pouvoir par rapport à d'autres situations. Mmh. Et alors, c'est rare qu'elles soient toutes seules. En général, elles sont accompagnées par des membres de leur famille. Mais je vois beaucoup soit un père, soit un oncle qui est derrière et qui va demander, qui va accompagner en tout cas la demande de nullité pour impuissance, parce que voilà, on veut pas être abusé aussi, quoi. Au moment du mariage, on donne une dot et du coup, il faut que c'est un investissement économique et on n'a pas envie qu'il soit perdu. Et du coup, si on se retrouve dans une situation où la cellule familiale peut pas avoir de descendance, ça peut être très problématique pour des familles, surtout des familles aristocratiques.
Alors, il y a des histoires de dot, il y a des histoires d'héritage, il y a la possibilité donc de remarier la fille avec quelqu'un d'autre qui a plus de possibilités financières, etc. Donc, vous voyez comment on commence par une histoire purement biologique et finalement, on arrive à ce qui semble être vraiment, vraiment le nerf de la guerre dans les sociétés humaines, c'est-à-dire la finance, le pouvoir, l'argent, etc. Enfin, je ne veux pas schématiser à outrance, mais il y a de ça.
Si. Et je trouve ça très intéressant aussi de voir comment est-ce qu'on va, pour des raisons économiques, mettre son intimité sur la table. Parce que c'est quand même pas rien, même si la pudeur aussi a une histoire, donc on ne va pas plaquer nos représentations actuelles sur ce que ressentaient les personnes du 19e siècle, mais au niveau de l'honneur, que ce soit masculin ou féminin, c'était quand même quelque chose d'assez fort d'aller parler d'impuissance devant un tribunal. Mais dans bien des cas, les questions économiques ou de lignage sont si importantes que, en fait, c'est pas un problème d'aller en parler.
Justement, ceux qui recourent au tribunal ecclésiastique sont plutôt des gens de famille aisée, noble, où c'était beaucoup plus répandu que maintenant, et même des gens du cru.
C'est beaucoup des classes supérieures. J'ai une surreprésentation des classes aristocratiques dans mes procès, parce que voilà, c'est des stratégies matrimoniales. Ça rentre dans le jeu des stratégies matrimoniales. Et d'ailleurs, il y a eu des études sur l'histoire du mariage qui ont montré que le mariage, ça coûtait cher aussi, et donc c'était pas rare que les gens s'en tiennent juste aux fiançailles. Les esponsales, c'était reconnu socialement comme un mariage et ça coûtait beaucoup moins cher, donc beaucoup de personnes se limitaient à ça. Après, j'ai quand même des cas de classe sociale moins aisée. Et souvent, je vois dans ces cas-là l'intervention du confesseur ou du curé. C'est pour ça aussi que les archives de Saragosse m'intéressent pas particulièrement, parce que c'est un milieu plus rural, le tribunal est plus petit, et donc là j'ai accès à des classes sociales différentes, avec beaucoup de gens qui savent pas signer par exemple, ça c'est une marque d'une classe sociale moins importante. Et là les questions des biens sont peut-être pas aussi importantes, les questions économiques, puisque les gens n'en ont pas tellement à sauvegarder, et donc on va plus s'entrer dans des argumentaires sur la déception de ne pas pouvoir être mère, par exemple, ou le mari, le fait que voilà, si, parce qu'il y a aussi des cas d'impuissance féminine, quelques cas d'impuissance féminine, et donc un mari qui a envie, en fait, d'avoir
une descendance. Comme ça. Hypothèses de départ sont en train de se vérifier.
C'est une bonne question, mais elles ont beaucoup changé, mes hypothèses. Je ne pensais pas que mon sujet serait autant sur l'histoire médicale. Ça s'est un peu dessiné au fur et à mesure avec les sources. Je pensais beaucoup plus parler d'histoire du genre, et puis en fait la question de la construction des savoirs, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, donc mon sujet s'est beaucoup plus axé là-dessus. Alors après, au niveau de mes hypothèses sur les transformations en général des savoirs sur la médecine, l'apparition d'une médecine spécialité sur la sexualité, oui, là effectivement je vois que le 19e siècle est hyper important pour tout ça, pour cette transformation, donc ça je le vois. Après, il y a des choses que je n'avais pas forcément prévues, comme par exemple je vois que la virginité a peut-être plus d'importance à la fin du 19e siècle qu'au début. Alors ça, c'est une hypothèse encore, mais qu'il faudrait que je vérifie, parce que là, je vais continuer à travailler là-dessus, mais avec l'importance de la médecine légale au 19e siècle, le fait que la médecine aussi acquiert plus de légitimité, on veut pouvoir prouver par le corps beaucoup plus de choses, et je vois plus de procès que ce que je pensais, qui commence par une question d'impuissance et qui finit sur la question de la virginité de la femme, en fait.
C'était là notre premier thème de la série Confluence hispanique frontière.
chercheur invité, Marie Valin, membre scientifique de la Casa de Velázquez. Nous avons été accompagnés de thèmes musicaux du siècle d'or espagnol, Un Sarao de la Chacona de Juan Arañez et El Quijote de la Mancha, exécuté par le groupe Aras Antigua. À la technique se trouvait Pedro Berastegui. À très bientôt.